À Solange Clésinger, Nohant, 18 août 1858. Je ne sais plus guère où te prendre, puisque te voilà à Baden, quand je te croyais à Paris. Mais je pense que l'on te renvoie exactement tes lettres. J'ai relu attentivement celle où tu expliques à ta façon le problème de ta vie, rejetant tout sur le caprice de la destinée et l'injustice des êtres qui ont agi directement sur la tienne. Non, non, ma fille, tout cela n'explique rien et n'excuse rien. Ce parti pris de mal penser et de mal faire envers toi-même est plus ancien que ton mariage. Et, enfant, tu t'en prenais à tout le monde. À moi, à toi, à ta propre santé que tu essayais déjà de détruire, à ton bonheur de famille que tu n'as jamais compris ni goûté et que tu regardais comme un joug et un ennui. Toi, nous regretter ? Mais non, ma pauvre enfant, tu l'as rendue impossible, cette vie de famille. Tu l'as déchirée à beaux ongles, tu l'as sans cesse raillée et dédaignée, et tu n'as pas craint, à la dernière tentative que j'ai faite pour te guérir l'âme et le corps, de souiller ton nid par une fantaisie des plus mal placées. Je ne peux prendre la responsabilité de pareilles escapades, et je te l'ai dit alors. Tant que tu ne seras pas transformé et rendu à la raison, je ne te souffrirai pas, sous mes yeux, sous mon toit, faire scandale et désespoir de ma vie. C'est assez bien que je sache, par tes demi-aveux et par de tristes certitudes maintenant acquises, que tu veux marcher dans ce chemin-là encore un temps. Combien de temps, hélas ! J'espère toujours que tu t'en lasseras. Mais tes lettres si échevelées et presque cyniques, sous leur grâce railleuse, me montrent bien que nous ne nous entendrions pas encore. Ou le scepticisme que tu affiches me tuerait, ou je m'indignerais à chaque instant contre toi. De loin, du moins, je te plains et j'espère. Tu dis que je ne veux te souffrir ni chez moi ni près de moi. Non, certes, avec des amants. Si tu t'établis dans mon voisinage avec ce train de vie que tu essayais d'établir à la maison il y a 2 ans, je quitterai la partie. Je m'en irai vivre ailleurs. Je ne veux pas sanctionner par une tolérance honteuse une manière d'exister qui est comme une protestation cruelle et audacieuse contre l'amour vrai, la chasteté, la probité de l'âme, toutes choses auxquelles je crois encore sous mes cheveux gris, et que tu traites d'illusion et de billevesée. Je comprends, et j'ai connu le doute en matière de morale et de religion. Qui n'a connu cette maladie ? Mais le doute que l'on combat en soi-même est une épreuve. Celui que l'on cherche, que l'on caresse, et que l'on programme en se jetant gaiement et résolument dans le mal, est un vice de l'esprit et du cœur. Depuis quand donc le malheur est-il une excuse à la perversité des idées, à l'égarement, à l'oubli de soi-même ? Et quoi ? Toutes les femmes mal mariées, toutes les mères qui ont perdu leur enfant ont le droit de dire « Je fais, avec le premier sot ou l'indifférent que je rencontre, une grosse sottise. » Cela me donne une heure de rire nerveux, le regret et le remords viennent après, mais cela occupe, et le temps passe. Ce sont là tes propres expressions. Eh bien, mon enfant, elles sont affreuses, et la pitié tendre à laquelle les douleurs de ta jeunesse semblaient te donner droit s'effacera chez les âmes honnêtes, pour faire place au dégoût. Tu te consoles de ta mauvaise réputation en te disant « enviée des autres femmes ». Quelles sont donc ces femmes qui envient se laisser aller déplorable des instincts et cet oubli de la dignité humaine ? Ce ne peuvent être que des drôlesses qui ne méritent pas le nom de femmes. Tu le sens bien toi-même, car tu les déchires de toutes les griffes de ton sarcasme, mais tu éprouves, dis-tu, un désespoir qui va jusqu'à la pensée du suicide. Eh bien cela, je n'en crois rien. Tu poses ce désespoir avec beaucoup d'art devant les gens naïfs, à l'imagination vive. et tu en fais tes admirateurs et tes dupes. Mais cela ne réussit qu'un moment. En te voyant rire le lendemain de tes pleurs de la veille, personne ne s'attachera véritablement à ta destinée. Personne, si simple ou si engoué, ou si ébloui qu'il soit. Car je crois que tu joues ce drame intime avec tout ce que tu peux empoigner, et que tu le joues fort bien. Personne ne pourra se persuader longtemps que la honte du mal et le regret du bien habitent réellement une âme qui retourne au diable avec des allures si cavalièrement réjouies. Quand on a le désespoir au cœur, on quitte le désordre, on cherche une affection vraie, on s'efforce de la mériter et on s'y tient. Rien ne sert de maugréer contre « messieurs les hommes », comme tu dis. Ils ne valent ni plus ni moins que nous. Et pour les maudire de leur trahison, il faut être irréprochable soi-même. Il est temps encore, ma fille. Il est toujours temps. Dieu ne repousse personne, et c'est une lâcheté de dire « il n'a pas voulu de moi ». Le vrai, le bien, le juste ont beau paraître étouffés en nous. Il y a toujours une étincelle que nous pouvons ranimer. Et Dieu nous aide toujours. Tu parles de dévotion catholique? De couvent? Soit, si tu t'y jettes sincèrement. Mais tu l'as essayé, et tu en as fait un calcul, et puis un jeu. N'importe. Si la foi te vient, get thee to a nunnery. Va-t'en au couvent, comme dit Hamlet à Ophélia. Cela vaudra mieux que de jouer avec ton âme comme un chat avec une souris. Je suis malade de t'écrire tout cela. Mon foie devient gros comme une tête quand je creuse cet abîme. Tu dis que tu ne sais rien de ce que tu veux faire, que tu iras ici ou là. Arrête-toi. Arrête-toi n'importe où. Que ce soit dans un palais, dans une église ou dans une petite chambre d'auberge, tu y trouveras le repos et la force le jour où ta conscience te parlera. Voilà ce que je t'écris. Quand j'essaye de te le dire, tu ris ou tu te fâches, et tout finit par des reproches amers que tu m'adresses, comme si ce beau catéchisme de folie que tu t'es arrangé était mon œuvre. L'œuvre inutile et désolée de ma vie aura été de le combattre chez toi et chez tous ceux qui en affichaient un semblable. Je ne me lasse pas de poursuivre et de chanter l'idéal sur tous les tons. Je mourrai en y croyant, car je lui aurais dû les meilleurs mouvements et les plus saines heures de ma vie. Et pourtant, ma fille, j'ai été aussi malheureuse que toi, ne fût-ce que par toi, hélas. Ton enfant tenait à mes entrailles autant qu'aux tiennes, et j'avais, en outre, une prédilection de cœur pour elle. Moi aussi, j'ai vu 10 fois ma vie brisée, et le suicide m'a poursuivi comme un vertige, des années entières. Mais j'ai raisonné dur avec moi-même, et Dieu m'a toujours assistée. Malheureusement, je n'ai pas d'influence sur toi. Je n'en ai jamais eu. Tu ne m'as jamais réellement aimée, et bien souvent, tu m'as ouvertement et violemment haï. Cela, je l'ai pardonné. Mais mes entrailles n'ont pu en oublier la blessure. Et je sens bien que l'effusion ne renaîtra entre nous que lorsque tu auras changé de vie. Alors tes yeux s'ouvriront, tu comprendras mes indignations maternelles et tu ne les traiteras plus de caprices maladifs. Tu déchiffreras cette énigme de ton existence que je comprends, moi, depuis ton affreuse lettre. Quand tu croiras en toi-même, j'y croirai aussi. Mais en attendant, parlons d'autre chose que de ta soif de vivre auprès de moi, où tu t'ennuies si profondément. Ton amabilité me fait du mal quand je me rappelle l'amertume et le dénigrement qu'elle couvre. Ah, si tu m'aimais, tu t'aimerais toi-même. tandis que tu nous assassines tranquillement toutes les deux.